BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. La blockchain en contient une bonne partie de notre avenir. On va donc en parler de ce potentiel, les crypto-actifs. Comme chaque vendredi, les pros des cryptos avec Claire Belva, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Claire.
Bonjour.
Co-fondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Sébastien Gouspillou est avec nous aussi au téléphone. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Spécialiste du minage, cofondateur de Big Block DC, DC. Il faut le dire à la française, Sébastien, DC plutôt.
Comme vous voulez.
Bon, les deux, vous adressez au monde entier finalement. Et Vincent Bois, toujours avec nous, analyste pour IG. Tiens, Vincent, on va parler justement de ce potentiel des différentes crypto-monnaies. D'abord du Bitcoin, qui a quand même reculé de 50% depuis le point haut du mois de mai. Cette baisse de 50%, est-ce que pour vous, elle est quand même synonyme d'une fin, de l'engouement spéculatif qu'on a peut-être pu observer autour du Bitcoin?
Alors non, effectivement, ça peut écarter certaines personnes qui sont rentrées peut-être au mauvais moment sur les 50 ou 60 000 dollars. De là, en revanche, à avoir une fin de ces spéculations, on a encore de nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché. Donc l'engouement et la spéculation devraient se poursuivre, peut-être pas à des niveaux aussi importants qu'on a vu précédemment, comme les 65 000 dollars, en tout cas pas pour le moment. Et donc, malgré cette baisse que l'on a vue de 50%, comme vous l'avez dit, cela n'enlève pas finalement l'engouement spéculatif, puisque de toute façon, que ce soit à la vente ou à l'achat, on peut spéculer sur les crypto-monnaies ou d'autres marchés. Donc, l'engouement spéculatif devrait rester, mais cela n'enlève pas, en revanche, le risque d'une poursuite de la baisse avant peut-être un retour haussier plus important.
On est à 33 500 dollars en ce moment sur le Bitcoin. On a vu donc ce Bitcoin rebondir en gros sur la barre des 30 000, même s'il est passé sporadiquement, momentanément un peu en dessous. Est-ce que cette barre des 30 000 dollars pourrait servir de support durable et pourquoi pas pour un rebond plus important?
Alors pour le moment, il semble tenir, même si en effet on a eu une petite frayeur en voyant le Bitcoin descendre sous les 30 000 et qui aurait pu justement enclencher un mouvement beaucoup plus baissier vers les 20 000 dollars ou les 19 500 qui est l'ancien plus haut historique qu'on avait connu en 2017 après cette première poussée accélération, ce qui avait amené d'ailleurs un peu le Bitcoin dans le mainstream ou en tout cas amené à connaître cette crypto-monnaie et ces crypto-monnaies. Donc pour le moment, le seuil des 30 000 dollars semble tenir. Mais en tout cas, c'est mon point de vue, la tendance baissière et le risque baissier continuent de dominer tant qu'on est sous les 40 000, 42 000 dollars. Et donc, on peut revenir tester ces 30 000, voire les 28 000, et avoir un nouveau rebond, mais peut-être moins important et retourner sous ce niveau, ce qui pourrait amener sous les 28 000, plutôt à aller vers ces 20 000 dollars, 19 500, qui serait un niveau psychologique très important pour beaucoup d'acteurs.
Voilà les quelques bornes à avoir en tête lorsqu'on choisit d'investir en crypto-monnaie, en tout cas sur le Bitcoin. On rappelle, c'est de la diversification évidemment de portefeuille. On investit bien sûr que l'argent dont on n'a pas besoin, c'est plus pratique. Justement Claire, votre regard là-dessus, le Bitcoin qui s'est cassé la figure et maintenant qui s'est stabilisé, pendant que l'Ethereum lui sur le deuxième trimestre a plutôt progressé, on a vu une divergence là se mettre en place. Qu'est-ce que ça vous inspire cette divergence des graphiques entre la première des cryptos, le Bitcoin, et puis la deuxième, l'Ethereum, qui a plutôt eu tendance à réduire l'écart avec le Bitcoin et à plutôt surperformer au deuxième trimestre?
Oui, on voit souvent des mouvements comme ça, en fait, où Bitcoin retrouve sa dominance, puis finalement laisse plus de place à d'autres crypto-monnaies. C'est assez classique, en fait, dans ces fameuses saisons où Bitcoin monte d'un coup. On se retrouve finalement avec une deuxième partie de saison où d'autres crypto-monnaies ont une hausse beaucoup plus marquée. Hein. C'est ce qu'on appelle la alt season, pour finalement désigner la saison des altcoins, donc des crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin. Donc c'est pas très surprenant. Ethereum a aussi beaucoup bénéficié du phénomène DeFi, donc pour la finance décentralisée, avec tous ces projets qui se sont construits par-dessus Ethereum. Donc ça a contribué à rendre son écosystème beaucoup plus solide aussi, ce qui explique la montée de son cours.
Voilà, et on a vu donc ces deux courbes à pas se croiser, hein, pas encore. Mais non, voilà, non. Le Bitcoin qui reculait au deuxième trimestre pendant que l'Ethereum avait plutôt eu tendance à monter. Mais il y a une logique derrière tout ça et c'est intéressant de l'expliquer, bien sûr. Le Bitcoin qui a connu par ailleurs une baisse, alors il va falloir expliquer le jargon là, une baisse de hash rate, ce qui a provoqué une journée avec un temps de bloc de 23 minutes en moyenne. Là, on parle en fait de puissance de minage, c'est ça? La puissance de minage sur Bitcoin a diminué.
C'est ça, en fait, le hash rate, c'est cette fameuse puissance de calcul qui sert à valider les blocs de transactions. Alors Sébastien pourra en parler mieux que moi, mais effectivement cette baisse de hash rate, elle est liée aussi aux annonces de la Chine et à la diminution de la présence des mineurs en Chine, qui donc cause un effondrement de cette puissance de calcul et donc un ralentissement de la validation des blocs jusqu'à ce que le niveau de difficulté se rétablisse pour remettre cette durée à peu près à 10 minutes.
Sébastien, sur la baisse de hash rate qu'on a observé quand même sur le Bitcoin, qui sur l'une des séances des dernières semaines a été assez spectaculaire notamment, comment est-ce que vous voyez ça? Pourquoi est-ce qu'il faut d'ailleurs s'intéresser d'après vous à ce phénomène?
Ah ben parce que c'est une baisse de hash rate qui est historique, hein. On n'a jamais vu quelque chose d'équivalent. Là, on est passé de 190 exahash seconde à 88 aujourd'hui. Donc, on a vraiment eu une baisse considérable de l'ordre de 60% au pire moment. Et donc, évidemment, ça allonge le temps de validation des blocs, parce que on a moins de machines pour faire le même travail. Donc, le protocole s'ajuste. Et comme l'a dit Claire, il y a un ajustement de la difficulté tous les 2016 blocs, donc tous les 14 jours quand tout va bien. Et là, quand on a une baisse subite comme ça du hash rate, ça va mettre plus de temps à s'équilibrer, on a plus de temps à revenir à la bonne difficulté. Donc c'était hier que la difficulté aurait dû s'ajuster, maintenant elle est programmée pour dans 2 jours. La proof of work va fonctionner, va ajuster sa difficulté, de nouveau on va avoir un rythme normal. Voilà, donc ça aurait été un épiphénomène malgré cette énorme chute du hash rate, donc ça prouve que le protocole Bitcoin est drôlement bien pensé.
C'est intéressant de suivre tout ça, c'est le cœur battant quelque part de ce Bitcoin là dont on est en train de parler à travers le hash rate. Bitcoin dont la dominance, alors ces rapports de force on va dire dans l'univers des crypto-monnaies, dont la dominance avait pas mal reculé et puis elle est en train de remonter face aux autres crypto-monnaies. Le Bitcoin est en train de se rapprocher à nouveau des 50% de dominance, Claire, c'est volatile. Oui. Aussi, on parle de la volatilité des cours, il y a la volatilité de la dominance aussi.
En fait, alors bien sûr, et ce qu'on constate c'est qu'effectivement quand les cours sont plutôt baissier, ou en tout cas quand on n'est plus dans cette hausse assez spectaculaire qu'on a connue, finalement les altcoins sont plus volatiles que Bitcoin et donc subissent la baisse plus que Bitcoin. Donc là non plus, c'est pas très étonnant finalement que Bitcoin retrouve cette dominance dans des scénarios où on est plutôt sur une baisse de cours ou un cours qui teste régulièrement la borne basse des 30 000 dollars.
Et donc, on se rapproche à nouveau des 50% de dominance sur le Bitcoin. Peut-être va-t-il reduire. Bon, ça reste le Bitcoin reste le roi des crypto-monnaies, bien sûr.
Oui, mais oui.
C'était un roi.
C'est
un
pas
tout
remis
petit...
en cause.
Voilà, exactement. Bon. Sébastien, le roi en son royaume, le Salvador, royaume du Bitcoin. Salvador qui fait vibrer l'écosystème crypto en adoptant donc le Bitcoin comme monnaie légale et qui voudrait le Salvador désormais également proposer du minage plus responsable. Alors peut-être le signe qu'il y a un sujet d'ailleurs à régler sur l'impact environnemental du minage, vous allez nous le dire Sébastien, mais le Salvador compte faire une proposition, livrer une proposition pour un minage plus responsable. Comment peut-il, comment va-t-il s'y prendre d'après vous?
Le Salvador c'est un pays où il y a 75% de l'énergie renouvelable déjà aujourd'hui. L'idée pour ce pays est de continuer à développer ses énergies renouvelables. Il faut savoir que le Salvador achète encore 15% de son énergie à l'étranger et le propos c'est évidemment de devenir totalement autonome. Alors pour un tel petit pays, hein, c'est 6 millions d'habitants, la carte électrique est très bien répartie. Il y a 99% de la population qui a l'électricité. Le propos premier du président Bukele, c'est de devenir vraiment autonome en termes d'électricité. Et donc son mining sera évidemment durable et évidemment vert, parce que il va se produire et s'activer sur des sources d'énergie durable, donc sur leur géothermie et sur leur hydroélectricité. Et il y a un potentiel de développement qui est très très fort. Donc l'idée évidemment avec le mining, c'est de pouvoir optimiser la production de chacune des centrales déjà existantes, de façon à pouvoir développer le réseau de distribution et pouvoir créer de nouvelles unités de production d'électricité, que ce soit de l'éolien, du solaire, de la géothermie ou de l'hydroélectricité. Mais que sur l'hydroélectricité, actuellement, il y a une vingtaine d'ouvrages hydroélectriques au Salvador et on a la capacité d'en faire plus de 200-250. Donc, il y a une capacité de continuer à développer de nouvelles sources d'énergie durable et donc un mining durable, il y avait vraiment une véritable cohérence à ce que ce pays mine. Et d'ailleurs, nous, on était présents avant la prise de parole du président Bukele qui annonçait le Bitcoin comme monnaie légale dans le pays. Parce que c'était un pays qui nous apparaissait vraiment comme évident pour pouvoir faire un mining intéressant.
Oui, dans la mesure où la géographie du pays permet en effet peut-être, et en continuant de développer les bonnes sources d'énergie, de fabriquer, permettra de fabriquer peut-être, enfin en tout cas de miner de façon plus responsable. C'est l'objectif affiché par le président du Salvador. Est-ce que le Salvador va néanmoins devoir faire appel à des acteurs internationaux pour atteindre son but en l'occurrence ?
Alors, il ne vous aura pas échappé que la vice-ministre des Relations extérieures du Salvador a tweeté cette semaine et nous a officialisé comme son partenaire dans le mining. On a une expertise qui est assez rare, hein, parce que la plupart des gros mineurs sont des mineurs nationaux, travaillent dans leur pays, le russe travaille en Russie, le texan au Texas, le québécois au Québec, et ils connaissent pas forcément les choses qu'on sait nous, c'est-à-dire la géopolitique, les différentes régions, le climat des différentes régions, les différentes sources d'énergie disponibles. On doit connaître le marché mondial de l'électricité. Et donc, fort de cette expérience et puis de notre présence...
C'est vous qui allez le faire, Big Block. C'est vous, Sébastien, oui, qui allez le faire, qui allez être en charge de tout cela pour le Salvador.
Alors, en tout cas, le Salvador nous a demandé un rapport de façon à déterminer quelle allait être la politique nationale du Salvador. Et c'est très important de gérer ça en amont, avant de laisser venir les mineurs, de bien déterminer les règles. Parce que le mining, comme je l'ai dit, peut être vraiment une ressource incroyable pour un pays comme le Salvador. Mais ça peut être, si c'est pas organisé en amont, ça peut devenir aussi un handicap, le mining. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans des petites républiques anciennement soviétiques, on a vu un réseau électrique complètement saturé par le mining. Donc il faut pas que ce soit fait dans un système anarchique, il faut que ce soit réfléchi à l'avance, de façon à ce qu'on ne prenne que les surplus. L'idée du mining, c'est jamais de venir confisquer l'électricité aux populations et aux industries, c'est vraiment d'optimiser la production des sources d'énergie durable.
Et pendant ce temps, l'écosystème qui continue donc de se constituer, un acteur français, il est avec nous aujourd'hui, Sébastien Gouspillou, qui va essayer de participer justement à la constitution de cet écosystème pour le Salvador et à travers le minage pour le coup de Bitcoin. On voit aussi les banques américaines, Claire, qui accroissent leur position sur les différentes crypto-monnaies. C'est assez spectaculaire maintenant quand même. 650 banques locales américaines vont désormais permettre l'achat et la vente de crypto à leurs clients. Ça représente plus de 20 millions de clients. Demain, vous pensez qu'on achètera de la crypto via sa banque, que ce type d'information, de stratégie aussi, ça va se multiplier ?
Oui, je pense complètement. Alors, sauf si, bien sûr, les banques sont trop en retard, auquel cas, elles auront du mal à survivre dans ce nouvel écosystème. Mais effectivement, si les banques s'y mettent à temps, bien sûr, on pourra acheter de la crypto via sa banque. Alors, soit les banques créeront une activité crypto, soit finalement, elles rachèteront des acteurs nativement crypto, un peu comme ce qu'elles ont fait parfois avec les banques en ligne.
Ce sera peut-être le plus simple,
oui. Tout à fait. Maintenant, ce qui est aussi paradoxal quelque part, c'est que Bitcoin et les cryptos ont été créés pour s'affranchir des banques, et qu'on remarque finalement aujourd'hui que les banques se réapproprient ces cryptos, et donc ça pose finalement la question de la recentralisation aussi de cet écosystème et de l'affranchissement des intermédiaires qui était la philosophie de départ de ces technologies.
Ouais. Et cette annonce, elle a d'ailleurs eu un impact sur les cours du Bitcoin. Le Bitcoin a monté sur l'annonce, en effet.
Alors, c'est très difficile de savoir exactement ce qui fait monter ou ce qui fait descendre le cours du Bitcoin. À chaque montée, à chaque baisse, on peut interpréter, on peut regarder les nouvelles de la veille et se dire c'est à cause de ça ou de ça, mais on a rarement des preuves, finalement, sur les causes.
Alors là, on parlait de banques locales américaines. Est-ce que vous constatez qu'en France, l'univers bancaire aussi est en train peu à peu de s'intéresser aux cryptos et que certains acteurs bancaires pourraient se positionner ?
Alors, moins qu'à l'étranger, pour être honnête, on est un peu en retard sur le domaine. En tout cas, les annonces publiques qui sont faites par les grandes banques françaises restent très frileuses. On se souvient de la tribune du président de la FBF qui émettait l'hypothèse d'un scénario où Bitcoin allait redescendre à zéro. Donc, les positions publiques qui sont prises par les banques françaises aujourd'hui sont plutôt très très frileuses sur ces sujets. Alors maintenant, il y en a qui lancent quand même des initiatives. On remarque qu'en privé, quand on discute avec des banquiers, ils ont quand même envie d'y aller. Mais ils ne savent pas trop comment le prendre. Ils n'ont pas envie d'être en porte-à-faux aussi avec les pouvoirs publics. Donc, ils abordent souvent ce sujet par les risques. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des banques abordent le sujet crypto plutôt en regardant le sujet monnaie numérique de banque centrale, qui finalement est un bon moyen d'aborder le sujet crypto tout en restant politiquement correct.
Nos banques françaises, qui ne sont pas les moins compétentes, on a les plus grandes banques d'Europe, en termes de solvabilité, etc., elles montrent souvent l'exemple, etc. Mais là, sur ce sujet crypto, quand même, vous sentez une frilosité particulière, dans un contexte peut-être politique qui les incite à être et à rester frileuses. Vous avez vu ces déclarations du gouverneur de la Banque de France, cette semaine, qui a appelé à une régulation massive sur les cryptos avant qu'il ne soit trop tard, disait-il.
Oui, alors c'est pas nouveau hein, que la Banque de France demande une régulation des cryptos. Là, ce qui est nouveau, c'est que non seulement il y a cette demande de régulation, mais la cause, en tout cas, qui est mentionnée, c'est la menace des cryptos pour notre souveraineté monétaire. Et ça, c'est assez nouveau parce que la Banque de France, jusqu'ici, avait comme position que les crypto-monnaies n'étaient pas des monnaies et donc il n'y avait pas vraiment de sujet. Et donc là, c'est la première fois qu'on parle de menace pour la souveraineté monétaire. Donc pour moi, ça témoigne d'une vraie prise de conscience aussi du régulateur que les cryptos sont potentiellement dangereuses pour la compétitivité de l'euro, la compétitivité des monnaies traditionnelles. Donc c'est assez intéressant et j'ai hâte de voir aussi ce qui va suivre en termes d'initiatives, de régulation, mais d'innovation aussi.
Oui, il y a des parlementaires qui suivent beaucoup l'univers crypto, qui voudront sans doute être actifs, il y a une présidentielle à venir aussi. Bon, on imagine qu'il ne sera pas en tête des sujets, on est bien d'accord, mais ce sera aussi un enjeu pour les prochaines années, voir la France ne pas rester trop à côté de ce marché qui est en train de se constituer dans un certain nombre de pays, et les États-Unis ne sont pas les derniers à s'y intéresser, évidemment. La Chine non plus, d'ailleurs. On voit en parallèle les mouvements en Chine avec le yuan, en l'occurrence. Yuan, dont on se dit qu'il confirme que cette thématique crypto va devenir de plus en plus politique.
Oui, en fait, elle l'a toujours été, mais quelque part, en tout cas en France, on était un peu dans le déni de cette thématique politique. On voyait ça comme un sujet de geek, un sujet d'anarchiste. Et finalement, je trouve que ce qui a beaucoup fait bouger les régulateurs et les politiques sur le sujet, c'est les annonces de Facebook. Quand Facebook a annoncé vouloir créer sa monnaie privée, qui s'appelle maintenant Diem, ça a fait prendre conscience aussi de tous ces sujets. Et donc, d'un coup, les cryptos sont devenus un sujet politique et le deviennent de plus en plus. Et effectivement, la Chine aujourd'hui est dans un grand jeu géopolitique et a à la fois une approche assez répressive des crypto-monnaies comme Bitcoin. Alors, on voit ce qui se passe sur le minage, mais elle avance aussi très vite, en tout cas beaucoup plus vite que l'Europe, sur sa monnaie numérique, donc ce yuan, dont elle envisage déjà le déploiement dans plusieurs régions. Donc ça avance très vite du côté de la Chine. Et puis du côté des États-Unis, c'est disons qu'on favorise plus l'innovation. Là, on a le vice-chair de la Fed qui s'est exprimé finalement sur ses doutes quant à l'utilité d'une monnaie de banque centrale et qui évoque plutôt la piste des stablecoins et de l'hégémonie du dollar qui pourrait être aidée justement par les stablecoins.
Ah oui, c'est intéressant. Tout cela fait encore l'objet de beaucoup de débats. On va continuer d'en parler, bien sûr, régulièrement le vendredi dans les pros des cryptos. Dans un instant, Vincent, vous êtes toujours avec nous, Vincent Bois pour IG, vous nous direz quel potentiel vous voyez sur les autres cryptos, et notamment quel crypto pour vous, dans l'absolu comme ça, présente le meilleur potentiel. Ce sera dans quelques instants. D'abord, Claire, des cryptos, il en existe des milliers. Avec des produits d'appel pour rendre certaines de ces cryptos plus attractives, Coinbase a annoncé cette semaine un nouveau service qui propose 4% d'intérêt aux détenteurs de USDC.
Oui, alors l'USDC, c'est un stablecoin indexé sur le dollar et c'est le stablecoin de Coinbase, d'où aussi le C à la fin. Donc c'est un stablecoin dont la parité est garantie par Coinbase. Concrètement, il y a un certain nombre de dollars loqués dans un compte bancaire et puis à côté, Coinbase a émis des tokens sur blockchain qui donc représentent un token égale un dollar. Et donc c'est un stablecoin qui aujourd'hui est régulé et dont la parité est garantie par son émetteur.
C'est une sorte de livret A bis ? On peut le voir comme un livret A, non ?
On peut le voir comme un livret A.
C'est sécurisé comme un livret A, c'est...
Alors, on peut le voir comme un livret A, si ce n'est que le taux est quand même pas le même. Hein. On parle de 4% oui, au lieu de 0,5. Donc forcément, ça peut attirer aussi des personnes qui se disent que, enfin, au lieu de laisser ses euros dans son compte bancaire, on pourrait même passer en dollars, mettre ses USDC sur Coinbase et puis tout simplement attendre ces fameux 4%.
D'accord, parce que c'est vrai, le rendement est beaucoup plus important et intéressant et attractif que sur le livret A. Et la sécurité est équivalente, franchement, la liquidité aussi.
Alors c'est ça, le capital est garanti. Et ça, c'est finalement assez nouveau parce que 4%, c'est beaucoup par rapport au livret A, mais c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on peut connaître dans le monde des cryptos. On a plein de services qui proposent des rendements nettement supérieurs. Je pense à BlockFi, par exemple, où avec du stablecoin, on est entre 7 et 9%. Il y en a plein d'autres, hein, bien sûr, on ne va pas tous les citer. Mais effectivement, dans la crypto, on est habitué à ces intérêts nettement plus élevés. Donc finalement, 4%, on pourrait se dire que ce n'est pas beaucoup. Sauf que Coinbase, qui propose ce type de service, là, ça change la donne parce que Coinbase, c'est coté en bourse, c'est un géant. Et surtout, c'est un géant qui a des clients qui connaissent peu la crypto. Finalement, pour aller sur BlockFi aujourd'hui, par exemple, vous devez quand même voilà, être un peu dans l'écosystème, connaître tous ces produits, alors que Coinbase, c'est un produit d'appel. Et donc, ça va largement démocratiser aussi ce type de service.
Voilà, cet univers crypto qui continue de se constituer, ça bouge tous les jours. Et évidemment, Vincent, vous n'allez pas y couper la question de ce particulier qui nous l'avait posé il y a quelques semaines et que l'on pose à tous les spécialistes techniques qui succèdent ici. Vincent Gagny a répondu. On avait aussi la réponse de Xavier Fenot. Maintenant, c'est votre tour. Quelle est, d'après vous, la crypto-monnaie présentant dans l'absolu le meilleur potentiel?
J'en donnerais deux, du coup, mais pour différentes raisons. La blockchain d'un côté et puis la spéculation, l'ETH que l'on connaît tous, l'Ether ou la blockchain Ethereum, qui est malheureusement à beaucoup d'obstacles et notamment l'utilisation à grande échelle et donc qui amène à des congestions sur cette blockchain, mais qui représente tout de même le potentiel le plus élevé, l'utilisation par d'autres crypto-monnaies et d'autres projets assez importantes, mais également par d'autres sociétés, l'utilisation de ce smart contract. Et donc pour moi, au niveau de la blockchain, ça reste la plus intéressante, même s'il y a des obstacles à passer. Et puis de l'autre côté, au niveau de la spéculation et un suivi important des investisseurs, c'est le BNB, donc le Binance, qui est la crypto monnaie de la plateforme la plus importante au niveau mondial. Donc Coinbase est important, mais elle est connue parce qu'elle est en bourse, alors que Binance a une liquidité et un volume extrêmement important. Et donc la crypto-monnaie est suivie par beaucoup d'investisseurs, et on peut le voir d'ailleurs sur l'évolution des graphiques. Donc au niveau de la spéculation, c'est celle-ci plutôt que je suivrai.
Donc le BNB et l'Ethereum. Voilà l'Ethereum qui avait été cité aussi par Vincent Gann. Et puis Xavier Fenot, lui, voyait plutôt du potentiel sur le Solana, le ou la Solana, okay. Je ne sais pas comment on dit. Voilà, bon, c'est très intéressant. Et c'est de la diversification, hein, vraiment ultra, méga, giga diversification. Attention, on n'y place vraiment que l'argent qu'on est prêt à perdre. On est bien tous d'accord. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi. Claire, merci beaucoup. Claire, cofondatrice. Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto de KPMG France. Un grand merci à vous, Vincent Bois également, dont c'était la première. On espère que vous reviendrez, analyste pour IG. Et on salue de loin, il était au téléphone avec nous, Sébastien Gouspillou, spécialiste du minage, cofondateur de Big Block DC, qui sera donc très présent sur le minage au Salvador pour accompagner le Salvador dans la constitution du Bitcoin comme monnaie légale. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés. Le CAC 40, vous pouvez retrouver ce rendez-vous en podcast, hein, bien sûr. Dans quelques minutes, il sera d'ores et déjà disponible et vous pourrez suivre les pros des cryptos en podcast tout au long du week-end quand vous voulez et où vous voulez. Le CAC 40, donc, il est 17h pile, va clôturer dans maintenant une grosse demi-heure. Il est stable actuellement, 6550 points. Dans un instant, on dessinera des perspectives justement sur les marchés avec nos experts du club juste après la pause. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.